Bien. On passe à la suite et on va faire une petite virgule entre cette phase d'échange et puis la suivante. Alors j'espère que ça va marcher. On va voir.
Hola, and welcome to Que Hora Es, the Mexican soap opera for people who only had 3 weeks of Spanish in the fourth grade.
¿Qué hora es?
Ocho.
¿Dónde está la biblioteca?
Yo no sé.
Lunes.
Martes.
Miércoles.
Jueves.
¡Feliz Navidad! ¿Qué hora es?
¡Telemundo!
Me llamo Derek. Dos Coca-Colas, por favor. Una cerveza para mí. ¡Yay! ¡Macarena!
Señores, hay muchos tacos en México.
Número uno.
El pollo loco es muy delicioso.
Número dos. Tres. Cuatro. Cinco.
Seis.
Ya no tienes que buscar por tu amor, porque siempre estaré al lado tuyo. Soy una parte de ti y nunca más te abandonaré. Sin ti, ya no quiero vivir más.
Hey, ¿cómo se dice chill? In español.
I think it's hace frío. Hace frío.
Yeah, frío, partner. ¿Qué hora es?
You know, ¿cómo se llama?
Cinco de mayo, baby.
Hey, ustedes no hablan español.
Sí.
¿Qué hora es?
Join us next week for more Que Hora Es.
Voilà, le genre. Alors, donc, on passe à la phase suivante de la formation. Hier, on est resté au niveau de la séquence, du cours, de la séance. On a abordé la question des compétences à ce niveau-là. Aujourd'hui, on va hausser le niveau, mais pas au sens qualitatif, au sens micro-macro. Et on va passer au niveau macro-didactique, c'est-à-dire le développement des compétences dans le temps et dans l'espace. C'est-à-dire pas simplement dans ma classe, mais dans les classes des autres aussi. Hein? C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe par rapport aux autres personnes dans l'établissement et sur quelle base le travail peut-il s'établir? Ce qui est, je pense, quand même essentiel par rapport au socle commun. Alors, on va travailler dans ce cadre-là, plutôt du socle aujourd'hui. Hein? Mais évidemment, le cadre ne sera jamais tellement loin. On va utiliser plutôt le... J'allais dire le cadre du socle, ça fait bizarre. Mais enfin bon, le contexte, l'objet socle. Alors, je vais vous proposer un travail que certains d'entre vous, je pense à Sophie par exemple, va reconnaître, parce qu'il a été utilisé à Grenoble, et enfin peut-être d'autres que Sophie hein, d'ailleurs, Et on va... Pardon, excusez-moi. On va donc reprendre... Alors, c'est peut-être pas la version qui a été... Oui, on va... Oui, oui, je vais l'éteindre. Non, tu y vas? Ah oui, je ne m'étais pas, même pas rendu compte. Je ne m'étais même pas rendu compte que ça doit être ça. Moi, j'aurais appuyé sur tous les boutons avant de tomber sur le bon. Elle, paf, nickel. Absolument. C'est une question de génération, tu sais. Moi, je suis issu du papier stylo. Hein. Bon, alors, je vais pas m'étendre là-dessus, hein, je ne vous fais pas un cours. C'est un document, un PowerPoint qui a été utilisé pour sensibiliser les enseignants du collège, principalement, à ce qu'était le socle. C'était dans le cadre d'une sensibilisation pluridisciplinaire. Mais là-dedans, il y avait chaque discipline, disons, ou chaque compétence, avait son PowerPoint. Donc, on a travaillé à plusieurs, dont Cécile, sur la mise au point du PowerPoint, avec Colette, bien sûr. Et c'est un résultat que je vous donne de ce travail, mais qui va nous servir de point d'ancrage à une activité autour des compétences. Alors... Bon, vous connaissez, pas de problème, je passe. Oh ben ça, c'est tout simplement inspiré du cadre ou du socle. Hein. Alors, si peut-être une différence, interagir, réagir, dialoguer, d'abord les formulations sont celles du socle, pas celles du cadre. J'ai repris les formulations du socle, mais en plus... je pense qu'il y a un problème dans le cadre qui est de dire il y a 5 voire 6 activités langagières en mettant comme ça l'interaction orale en plus et puis pourquoi pas la médiation en 6e et puis par ailleurs on ajoute l'interaction écrite etc. Il faudrait quand même hiérarchiser un tout petit peu les choses et montrer que l'interaction c'est toute utilisation d'une activité langagière complexe. C'est exactement comme les couleurs simples et les couleurs complexes. Il y a le bleu, le jaune et le rouge. C'est ça ? Et si vous mélangez le jaune et le rouge, ça donne de l'orange. Si vous mélangez la compréhension de l'oral et la production orale, ça devient de l'interaction orale qui a des caractères spécifiques que n'ont ni la compréhension ni la production, mais c'est quand même une interaction entre les deux. Donc on aurait intérêt à, plutôt que mettre les objets comme ça, un petit peu comme ils viennent, peut-être pour vouloir, en ayant l'impression qu'on va simplifier le travail de compréhension des gens, je trouve qu'on aurait intérêt à rationaliser un tout petit peu les choses. Ce qui est interactif dans ce sens-là, c'est la combinaison, au sens de couleurs combinées, de couleurs complexes, de deux activités langagières élémentaires. Pas élémentaires au sens de facile, mais élémentaires au sens où elles sont, entre guillemets, pures. Ok ? Voilà. Alors, on va donc, dans ce PowerPoint, présenter une tâche avec ses composantes. Une tâche, elle est définie par une situation et une action langagière. Action, et pas activité langagière, pour éviter l'ambiguïté avec les activités langagières. D'où viennent ces notions ? Très rapidement, ça vient d'un sociolinguiste américain qui s'est coltiné, qui s'est attrapé par la cravate avec Noam Chomsky, dans les années 70, ce sociolinguiste s'appelait Dale Hines, et le cadre conceptuel dans lequel on évolue vient de Dale Hines dans ses grandes lignes. Donc, qu'est-ce qu'il dit ? Je ne vais pas faire un cours, hein, mais une situation, ça vient de la notion de social events, et une action langagière, ça vient de la notion de speech event. Et on retrouve notre dualité, la pièce de monnaie, hein, avec la face social et la face speech. On est toujours dans la même logique des bifaces. Hein. Alors, on a donc ces deux choses-là. C'est quoi la tâche, l'action langagière ? Vous allez chez un ami, enfin l'action langagière et l'action non langagière, vous allez chez un ami, vous êtes coincé dans l'ascenseur. Ne perdez pas de temps à prendre des notes là-dessus, franchement. Le PowerPoint, on pourra le mettre sur... Il est d'ailleurs sur le site de l'Académie de Grenoble. Franchement, écoutez plutôt ou essayez... Enfin, suivez avec votre intelligence plutôt qu'avec votre stylo. Donc vous allez chez un ami, vous êtes coincé dans l'ascenseur, vous l'appelez pour qu'il vienne vous aider. Voilà la tâche. Il y a dans le groupe classe d'autres jeux de rôle, d'autres petits jeux de rôle sur le même modèle. Votre père vous appelle, il ne peut plus se préparer à manger, il est handicapé. Bon, je passe, on ne s'est pas occupé des autres. On précise aussi que on a affaire bien sûr à une situation, à une action langagière et à des conditions didactiques de réalisation. Là, de nouveau, il y a une sacrée distinction à opérer entre les deux premiers points qui sont ce qu'on a toujours appelé depuis les années 70 une situation de communication. Vous êtes d'accord ? Vous êtes coincé dans l'ascenseur, vous appelez à l'aide, il y a quelqu'un qui vous répond au bout du téléphone, situation de communication. Et ce qui va suivre à partir du point 3, qui n'est plus du tout une situation de communication, mais qui est une situation didactique. Et on souffre de ce mot partagé, situation, parce que du coup, on confond tout. On confond ce qui relève de la communication et ce qui relève de la didactique. Donc on va dire, on va avoir des présupposés qui sont, il suffit de placer les élèves dans des situations, j'ouvre de multiples guillemets, authentiques, encore de multiples guillemets, réelles, pour qu'ils apprennent. Non! Il faut être très clair, on n'est pas dans le spontanéisme qui consisterait effectivement à penser qu'il suffit de mettre les élèves dans des situations de communication pour qu'ils apprennent, on est dans la didactique. La didactique, ça implique que la situation didactique intègre la situation de communication, mais ne se réduit pas à la situation de communication. Ça aussi, c'est des choses qu'il faut vraiment... arriver à faire passer auprès des collègues, il y a beau avoir ce fichu mot situation qui nous plombe, c'est quand même pas la même chose et l'adjectif est plus important que situation tout court. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans la situation didactique ? Il y a bien sûr des situations de référence. Par exemple, on se réfère à quelque chose qui était le blackout de New York, je crois que c'était 93, bon, peu importe. Mais il y a plein d'autres choses. Il y a par exemple des ressources qu'on va fournir aux élèves au cours de l'activité. Si je me trouve réellement bloqué dans un ascenseur au 150e étage de l'Empire State Building, je n'ai pas besoin de ressources pour appeler. Il faut que j'ai le numéro que j'appelle, mais à part ça, pas besoin de ressources en anglais, quoi. Il faut préparer. Je n'ai pas non plus besoin de préparer si je suis dans la situation réelle. Il faut peut-être des outils avec lesquels je vais accomplir la tâche. Ici, dans le cadre de cette tâche, c'était un baladeur MP3. Il faut un but. Donc, le but de la tâche, appeler quelqu'un à l'aide, n'est pas le même que le but de l'activité d'apprentissage, qui est de produire une conversation correspondant à un appel à l'aide. D'accord ? Vous voyez comment les choses s'articulent ? Et je crois qu'il y a une grosse confusion qui s'établit quand on emploie indifféremment situation d'apprentissage, situation de communication, etc. Parce qu'on mélange en fait des objets qui ne sont pas les mêmes. Et puis bien sûr, il faut que le message soit efficace, mais non seulement pour me faire comprendre à la personne qui est à l'autre bout du téléphone, mais pour me faire comprendre des élèves qui sont dans la classe. Si je suis coincé dans un ascenseur, je ne vais pas parler pour la galerie. Or là, je parle aussi pour les élèves de la classe et pour le professeur. Donc tout ça montre bien qu'il y a deux types de situations, un peu comme des poupées gigognes. Il y a la situation didactique. À l'intérieur de cette situation didactique, il y a une autre situation qui est la situation de communication, qu'il va s'agir de préparer avec tout cet étayage, tous ces éléments qui permettent d'accéder petit à petit à la compétence de réaliser cette situation de communication, cette tâche communicative. Donc, pour éviter toutes les dérives spontanéistes qui se retournent immanquablement contre nous comme un boomerang, parce que les gens disent « on nous demande de faire des tâches communicatives, mais ça ne marche pas. Donc si ça ne marche pas, on revient aux bonnes vieilles recettes, c'est-à-dire la grammaire, le par cœur, le truc comme ça. Mais ça ne marche pas parce que la situation de communication n'a pas été suffisamment bien préparée par tout cet étayage. C'est pas parce que l'approche actionnelle, ça marche pas. Vous voyez tout l'enjeu qu'il y a. Or ça, franchement, je ne sais pas si vous l'avez pas entendu un certain nombre de fois, que de vous recevoir à la figure, ça marche pas. J'ai essayé. C'est quelqu'un qui m'avait dit une fois pour le travail de groupe. Moi, le travail de groupe, j'ai essayé une fois, ça marche pas. Une fois. Bon, ben, essaye deux fois. Peut-être que ça marchera mieux la deuxième ou la troisième. Mais là, c'est pareil. Voilà. Alors, ça va sur cette distinction. C'est, j'ai l'impression, enfin, si je vous dis ça, c'est pas par rapport à vous, c'est plutôt par rapport aux gens avec qui vous travaillez, et puis il y a souvent besoin d'établir cette distinction. Voilà, c'est une petite production toute simple, mais ah ben oui, évidemment. Bon, mon fichier son ne veut pas marcher quand je suis en plein écran. C'est pas grave, ben j'arrive pas, il me passe à la diapo suivante quand je suis en plein écran, donc je suis obligé de repasser à la. Ah, vous allez entendre la production d'un petit groupe d'élèves, enfin de deux élèves.
I'm going to pass out, please. I need some help.
What's happened?
I'm trapped in the elevator and I'm really afraid of the dark.
Don't panic, don't stress out.
It's not my fault. Come on, I need you.
Okay, I'm come to you.
Bien. Le script, je vais essayer de vous le grossir, mais il veut pas grossir mon écran là. Je sais pas ce qui se passe. Bon, enfin, écoutez, voilà, vous avez compris, je vous fais confiance. Mais alors, ben tout simplement, ce que vous avez à faire, c'est essayer de structurer la description de la compétence. Alors, vous allez me dire, on est encore au niveau de la classe, là. Mais rassurez-vous, on va passer à la suite de ça, on accède au niveau supérieur qui est au-delà de la classe. Alors, bon, vous reconnaissez le tableau que vous aviez. J'ai mis ici un scan d'une page qui me semblait relativement intéressante de la grille du SCOL, celle que vous avez sous les yeux. Et si on prend l'idée qu'on part du plus général, eh ben, on est dans quelque chose qui est réagir et dialoguer, qui est une grande catégorie. C'est tel que c'est formulé par le socle, hein, enfin par les descripteurs. C'est pas la formulation du cadre, d'accord ?
C'est...
Non. Le cadre, le socle là se situe au même niveau que le cadre, mais chacun a sa formulation pour désigner les mêmes objets. Donc ça, c'est un peu, excusez-moi, mais chiant. Voilà. C'est-à-dire que chacun met sa petite patte. Les formulations alors qu'on parle de la même chose. Donc les gens, c'est pas étonnant qu'ils s'y paument, hein, et qu'ils nous répondent après, mais attendez, commencez par avoir le même discours, et quand vous serez d'accord, à ce moment-là, on rentrera dans la perspective actionnelle. Voilà. Donc, on pourrait attendre de nos responsables qui produisent ce genre de texte, en l'occurrence la DGESCO, qu'ils essaient de garder une cohérence. Bon. Mais réagir et dialoguer, c'est la production, l'interaction orale dans le cadre. On appelle ça réagir et dialoguer, admettons. Interagir de façon simple avec un débit adapté des formulations. Ensuite, je prends les sous-ensembles et on retrouve bien établir un contact social et demander et donner des informations qui peuvent coller avec ce type de petites situations. Où tu es, qu'est-ce qui t'est arrivé, je suis dans l'ascenseur, voilà. On demande et on donne des informations. Et puis, à droite, vous avez quelque chose qui ne descend pas, selon moi, jusqu'au niveau 3 de la petite grille que je vous ai donnée. Qu'est-ce que c'est à droite? C'est des critères d'évaluation, d'accord? Mais on ne va pas jusqu'au niveau 3 que vous avez indiqué, qui est le niveau des actes de langage. Mais voyez comme c'est drôlement ambigu, c'est-à-dire que qui nous dit que c'est des critères d'évaluation, ça, enfin je sais pas, c'est mélangé, voilà, c'est mélangé. Donc je trouve que c'est pas très très clair. Voilà ma... Oui, Alain.
Sur ce que tu nous as projeté,
ah, pardon. Ok. Merci de la précision. Je me suis fié à mon... Alors, comment ça se fait que ce n'est pas ressorti Très bien. Autant pour moi. Tu as bien fait de préciser. Donc, voilà comment je vois les choses. Il nous faut trois niveaux ici parce qu'il y a trois niveaux d'objets. Il y a le niveau des activités langagières. C'est le plus général. Mais il est tellement général qu'on peut se demander, à part ses vertus ou son intérêt pour classer, à quoi il sert pour enseigner. Ça fait partie de ce qu'un chercheur qui s'appelle Bernard Ray appelle les compétences sans objet, c'est-à-dire comprendre. On attend un complément d'objet direct. Si je n'ai pas de complément d'objet direct, je ne peux rien enseigner, puisque je ne sais pas ce qu'il s'agit de comprendre. Comprendre, ça n'existe pas dans l'absolu. S'exprimer, oui, ça existe, mais enfin, j'ai tellement de milliards de manières de m'exprimer que si j'emploie s'exprimer, ça reste très très formel. Et donc on a un niveau qui est le niveau sans objet, parce que même quand on dit interagir de façon simple avec un débit adapté des formulations, pour moi ça reste sans objet, parce que on ne dit pas sur quoi j'interagis. On ne dit pas dans quel texte. Vous voyez ? Alors, donc on a un premier grand ensemble de catégories qui est les activités langagières, qui ont cette particularité d'être sans objet, comprendre, même quand on ajoute l'oral, comprendre l'écrit, produire de l'oral et produire de l'écrit, ça n'est pas suffisant pour dire que ce sont des objets. C'est utile en termes de classement, et puis après, on peut se poser la question de l'utilité de ces choses-là. Ce qui pose une question quand même, c'est que quand on bâtit toute une progression, toute une programmation sur la division en activités langagières, j'ai un peu peur des fois qu'on ait affaire à une sorte de formalisme de grande catégorie, et puis qu'on ait un joyeux melting pot, mélange à l'intérieur. Donc on a ce premier niveau, on ne va pas le rejeter, hein, il existe, et puis c'est clair que voilà, il est utile pour organiser l'activité langagière dans son ensemble. Donc on a un descripteur général en termes de pédagogie d'objectifs, c'était le niveau général, ça s'appelait comme ça. Capacité générale, activité langagière. Deuxième niveau, on commence à définir un objet. Ben, c'est quoi la définition la plus logique pour cet objet de l'interaction que ce dont on a causé depuis le début, c'est-à-dire un texte. On comprend ou on produit un texte qui appartient à un certain genre. L'appel téléphonique, la conversation téléphonique, l'appel au secours, enfin après on l'appelle comme on veut. Hein. On peut mettre... il n'a pas vraiment de nom, c'est pas un genre véritablement. Hein. C'est bon, mais ça correspond quand même à une catégorie de situation. Donc, il y a des catégories de genre, et ça répond au côté interne ou externe des G. Externe, on est d'accord. C'est la reconnaissance par des caractéristiques extérieures de ce genre-là. Et puis, il y a des actions langagières, évidemment qu'il faut différencier de l'activité, hein. On a le problème, c'est tout des actes. Donc il faut qu'on se trouve des mots. Heureusement, la langue française en offre trois. Ça tombe bien. Alors, action langagière, et là, ben oui, c'est des actions qui en englobent d'autres. Établir un contact, demander et donner des informations si je m'appuie sur le socle tel que vous venez de l'avoir distribué. Et enfin, il y a un niveau... Alors, ce niveau-là, c'est celui du texte et de la situation. Des social events, situation, et des speech events, texte. OK ? Et enfin, j'ai un niveau 3 qui est celui des énoncés composant ce speech event, qui sont ce qu'on a toujours appelé depuis que l'approche communicative est sortie des actes de langage en linguistique et des fonctions langagières dans les programmes qu'on avait dans les établissements, enfin dans les classes ou dans les manuels, les fonctions langagières qui sont des descripteurs d'actes concrets, opérationnels. Le descripteur intermédiaire, c'est pas vraiment opérationnel. Alors, c'est, quelqu'un disait, c'est concret, c'est ce qu'on réalise réellement pour le niveau 3. C'est exactement ça. Hein. C'est vraiment ce qui se fait. Hein. C'est ce que tu définissais, c'est la tâche réelle dans sa matérialité. Hein. C'est ça. Alors, les actes de langage, se présenter, c'est un acte de langage, oui. Il peut se réaliser de plusieurs façons, hein, mais c'est un acte de langage. Saluer, prendre congé, etc., c'est des actes de langage. Réagir, répondre à une demande d'aide, d'explication, etc. Là, on a des actes de langage qui font partie de ces actions langagières qu'on peut catégoriser en activités langagières à un niveau de généralité maximal. Est-ce que l'emboîtement vous semble acceptable ? C'est un emboîtement, complètement. C'est des poupées gigognes. Vas-y, excuse-moi. Alors, il a... Oui, mais tu as raison de faire le lien. Il a très exactement à voir avec un positionnement discursif de l'énonciateur, donc typiquement ce qui est en jeu dans les G2. C'est un type de discours. Par exemple, exprimer une inquiétude... On va faire rentrer ça dans, j'en sais rien, la plainte par exemple, hein, ce que Kerbrat mettait dans la plainte. Ça peut être. Donc on a un positionnement en tant qu'énonciateur. Donc on est bien à l'intérieur de l'acte d'énonciation. On est bien dans la tête du locuteur. Alors que quand on parle des descripteurs de type appel téléphonique ou demander et donner des informations, là, on est plutôt à l'extérieur. On est dans l'externe. Hein? Je vous sens perplexe. Hein, le but que je me fixe là, c'est d'essayer d'organiser ce qui se chevauche, se mélange, etc. Alors, mais sur ce point-là, on peut évidemment ne pas être d'accord. Et puis, il y a plein de choses que j'ai passées sous silence dans ce qui a été dit. Que deviennent les compétences d'autres domaines qui étaient présentes dans certains groupes ?
Parce que dans le niveau 3, on n'a que une énoncie.
On n'a pas le reste. On n'a pas le reste, je suis bien d'accord avec toi. Mais on se situe ici dans quel pilier ? Dans quelle compétence ? On décrit quelle compétence ? D'accord. Et l'utilisation du MP3, je ne peux pas, dans la hiérarchie, la mettre là. D'accord ? C'est pas sa place, le MP3, ici. C'est sa place ailleurs. Si je reprends une espèce de hiérarchie équivalente à propos de la culture, l'utilisation des TIS, je ne sais plus le titre de la compétence 4, donc, dans le socle. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que à partir du moment où on raisonne hiérarchiquement, au sens où on descend d'une catégorie générale, d'un domaine général à ses composants, on ne peut pas, à ce moment-là, naviguer impunément entre les différents composants qui se trouvent au même niveau sur d'autres piliers, d'autres domaines de compétences. On est obligé de garder une certaine logique dans notre organisation hiérarchique. Ça peut être d'autres choses, hein. Eh bien oui. C'est un énoncé. Ah, alors il nous manque évidemment un certain nombre d'éléments qui sont ceux qui ont été mentionnés dans les groupes qui ont parlé de la réalisation linguistique de ces actes de langage. C'est-à-dire que de nouveau, on a affaire à une sorte de biface, hein, où l'acte de langage se réalise par un certain nombre de formes linguistiques possibles. Exemple, si je... Mais on est dans le domaine des actes de langage, on n'est pas dans le domaine des formes. Si je dis, il fait chaud dans cette salle, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Ça peut vouloir dire tout simplement que j'exprime un sentiment d'étouffer, etc. Mais ça peut vouloir dire que, voilà, Loïc, il fait chaud. Voilà. Hein, attends, mais j'adore comme il obéit toujours au doigt et à l'œil. Ça me... Aïe. Ok. Donc, on a bien une quatrième phase, d'une certaine manière, un quatrième niveau, qui va être celui que vous avez mentionné dans certains groupes, les moyens linguistiques, qui vont être plus ou moins complexes, plus ou moins... Mais ils sont, si vous avez remarqué, ils ne sont pas dans le descripteur, dans les descripteurs que je vous ai donnés. Ils n'y sont pas. Il y a peut-être une raison pour laquelle ils n'y sont pas. C'est qu'on est dans l'approche... Oups, je gomme approche. On est dans une perspective actionnelle. Je gomme approche parce que ça n'est absolument pas une méthodologie, la perspective actionnelle. C'est une position linguistique sur ce qu'est l'activité langagière. N'allez pas chercher de méthodologie dans le cadre européen, il n'y en a pas, sauf, je crois que c'est le chapitre 6, où ils vous disent, bien sûr, on pourrait se poser des questions sur comment enseigner tout ça, et effectivement, ils vous mettent 3 pages de questions. Mais il n'y a aucun parti pris par rapport à quelque démarche que ce soit du point de vue pédagogique, on va dire. Donc, approche renvoie quand même à l'idée d'une méthodologie archi souple, mais quand même de principe, d'un petit corps de principe méthodologique. Ici, on est dans une perspective, c'est-à-dire c'est un point de vue sur la langue. La langue, elle s'envisage comme l'usage du langage, et pas comme la langue. C'est-à-dire notre objet d'enseignement, si vous reprenez le petit papier gris d'hier, vous ne verrez nulle part mentionner la langue comme objet d'enseignement. Le premier terme, c'est l'usage d'une langue. Ce que nous enseignons n'est pas une langue, ce que nous enseignons, c'est l'usage d'une langue. Ça, c'est une sacrée révolution aussi dans la manière dont on envisage l'utilisation du langage. Et pas l'utilisation du langage, excusez-moi, notre métier, enfin le contenu de ce qu'on fait. Alors, donc il faut rester cohérent. Tant qu'on est dans ces descripteurs, on est dans des descripteurs pragmatiques. Après, bien sûr, forcément, on va avoir besoin d'autre chose. On ne peut pas exprimer un appel à l'aide si on n'a aucun lexique, aucune structure à disposition, etc. Donc, on va avoir un certain nombre de choses que le socle appelle des connaissances. Donc, tout le premier groupe, je l'ai appelé capacité pour rester au niveau du cadre, du socle. D'accord ? Et le deuxième groupe, à partir de là, on est dans des connaissances. Alors, c'est quoi ces connaissances ? Lexical, grammatical, de la prononciation, accent tonique, l'intonation, tout ça, ça fait partie de connaissances. Elles peuvent être thématiques, c'est un domaine de l'activité humaine que de se trouver bloqué dans un ascenseur. Hein, ça peut être partie du domaine public. Donc ça relève de certaines connaissances, une expérience, on va dire, de la vie, de la part des locuteurs. Et puis bien sûr qu'il y a des aspects culturels à ces connaissances, parce que par exemple, il faut savoir qu'il existe quelque chose qui s'appelle un interphone, qui permet d'appeler quand on est bloqué. Si j'arrive de mon Amazonie natale, que j'ai jamais vu un ascenseur, je vais pas savoir à quoi sert le bouton qui est là. Donc ça veut dire que je suis pas dans cette culture, donc j'ai pas la compétence culturelle qui me permet de me servir du bouton et d'appuyer au secours, pour au secours. Donc tout ça, ça va constituer, je te remercie beaucoup Jérôme, ça va constituer des ressources qui sont mobilisables par un apprenant pour accomplir ces actes de langage qu'on a décrits à la diapo précédente. Et là, il y a quelque chose d'extrêmement important à différencier, c'est ce qui est le procédural du déclaratif. Les connaissances déclaratives, c'est... Ouais, je sais qu'en anglais, le premier mot, c'est le sujet, le deuxième, c'est le verbe, le troisième, c'est le complément d'objet. Voilà. Mais que pour poser une question, il faut mettre l'auxiliaire doux. Mais que attention, l'auxiliaire doux, on ne le met pas partout. Par exemple, avec there is, on va juste inverser. Donc, je peux savoir ça comme le sait pertinemment le petit présentateur, enfin le jeune présentateur de l'émission, de la, pas de l'émission, de la table ronde littéraire sur le caretaker. Je vous ai passé ça parce que je me suis dit, je vais leur faire dresser les cheveux sur la tête. La première phrase qu'il dit, la première, il s'adresse à Harold Pinter et il lui dit, vous êtes assis, élève de terminale, c'est ça Michel? Why does there is three men's in your play? Why does there is three men's in your play? Texto. Comment? Ah, tu me rassures. Tu me rassures. Alors, vous demandez à ce gamin, mais comment on construit la forme interrogative avec there is? Ben, il va vous dire qu'on inverse. C'est évident qu'il va vous le dire. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Ou alors, ça voudrait dire qu'aucun de ses profs, y compris Michel, ne lui a dit ça, enseigné ça. Donc, c'est pas bien, Michel. Je le signalerai à tes inspecteurs d'anglais. Ou bien ça veut dire que l'enseignement qu'il a reçu lui a permis de développer des connaissances déclaratives sur la chose, mais ne lui a pas permis de les procéduraliser, c'est-à-dire de les transformer en procédures, c'est-à-dire en opérations cognitives qu'on appelle, d'un terme que j'aime pas trop, de bas niveau, c'est-à-dire des opérations cognitives du niveau articulatoire, en gros, par rapport aux opérations cognitives de plus haut niveau, qui sont les opérations pragmatiques. Donc les opérations cognitives de, entre guillemets, bas niveau, on va dire que c'est tout ce qui est articulatoire, syntaxique, la mise en ordre des mots, etc. Bas niveau n'est absolument pas dérogatoire, mais je trouve que le terme, c'est le niveau d'en bas, quoi. C'est ce niveau 4 de la pyramide. Un mécanicien, voilà, qui met bien dans la farine. Alors, donc, c'est pas les mêmes, ces deux types de connaissances. Il suffit absolument pas de savoir quelque chose pour le déclarer, pour le savoir sur le mode opératoire, procédural. C'est pas des procédures tant qu'on les a pas procéduralisées, et ça se procéduralise pas par l'opération du Saint-Esprit. Donc, on a besoin de toutes ces ressources. Évidemment, elles sont à mobiliser dans les compétences. D'accord ? Alors le problème, c'est que on trouve dans les définitions de compétences, ouais, on va devoir s'arrêter dans pas longtemps, on trouve dans les définitions de compétences, les compétences, c'est les ressources qu'il faut mobiliser dans une situation. Vrai, vrai, mais on oublie 50% du message, et 50% du message qu'on oublie, le voilà. C'est que il faut, en plus de mobiliser des ressources liées au domaine de compétences langagières, il faut en mobiliser d'autres, relevant d'autres piliers ou d'autres domaines du socle. Et là, on va retrouver celles que vous avez mentionnées dans un certain nombre de groupes. Maîtrise de la langue française, par exemple, ce descripteur, adapter sa prise de parole à la situation de communication, on ne le trouve pas dans les descripteurs du pilier 2. On le trouve par contre dans le pilier 1. Est-ce que c'est parce qu'il est dans le pilier 1, langue française, que je vais m'interdire comme prof de langue de l'utiliser? Non, évidemment. Ben, ça aurait été ridicule que les rédacteurs du socle le mettent aux deux endroits à la fois, d'une certaine manière. Ça faisait redondant. Donc, ils l'ont mis d'un côté. Mais le prof de langue n'a surtout pas à se cantonner au pilier 2. Il faut qu'il aille puiser ce qu'il veut faire construire aux élèves dans les autres. Par exemple, le pilier 1, où figure ce descripteur. Donc, on est d'accord, il faut que les élèves ils parlent suffisamment fort pour que leur MP3 les enregistre, il faut qu'ils manifestent des capacités d'expression, etc., etc. Il faut évidemment aller chercher des choses dans le... Vous l'aurez le diapo. Moi, ça m'embête de voir que vous êtes en train de gratter, parce que... Ah, oui, pardon, d'accord. J'ai rien dit. Bon, d'accord. Je retire alors. Il faut aller chercher dans le pilier 4, maîtrise des TIS, parce que les gamins, ils doivent savoir servir d'un iPod. Oui, c'est un iPod. En plus, c'est une classe iPod. Il y a intérêt à savoir s'en servir. Hein. Mais ce serait l'ordinateur, ce serait. Voilà, pareil. Et puis, évidemment, comme ils sont en petits groupes et qu'ils doivent se débrouiller seuls pour réaliser la. Enfin, sans l'aide du prof, on va aller chercher le pilier 7, autonomie et initiative, les attitudes, si vous voulez, pour aller à la louche, être autonome dans son travail, savoir l'organiser, le planifier, l'anticiper, savoir travailler en équipe. Tout ça, c'est des descripteurs de ces piliers. Donc, on est dans du vertical pilier 2, du vertical pilier 1, emboîtement aussi, du vertical pilier 4, du vertical pilier 7, emboîtement aussi, mais si on reste dans l'emboîtement, on ne fait rien d'autre que ce que font les collègues qui formulent leur contenu ou leurs objectifs en disant « j'ai mon objectif linguistique, j'ai mon objectif culturel, j'ai mon objectif social, j'ai mon objectif ceci ». D'ailleurs, on fait du découpage en tranches de saucisson. On est bien obligé de faire des tranches de saucisson parce qu'on ne peut pas dire tout à la fois. Donc, il faut bien saucissonner à un moment donné. Mais il faut surtout ne pas oublier le deuxième verbe qui est capital pour comprendre ce que c'est que les compétences. Il ne suffit pas pour construire, développer et manifester une compétence de mobiliser tout un attirail de ressources relevant de plusieurs piliers généraux, compétences générales. Il faut surtout tracer une horizontale entre les piliers, parce que cette horizontale va être une opération particulière qui est que je dois tout mobiliser, ces quatre grands ordres de compétences, en même temps, de manière simultanée, de manière coordonnée, on va dire. Simultanée, c'est un peu réducteur, de manière coordonnée dans une même action. Et donc, les définitions des compétences qui vous disent ce sont des ressources mobilisables dans une situation, oublie le deuxième verbe, mobilisable et coordonnable. Des ressources qu'il faut mobiliser et coordonner. Et alors, qu'est-ce qui est commun à tout ce qu'il faut coordonner? Il n'y a qu'une chose de commune ici, c'est la situation dans laquelle le gamin est placé, ou les gamins sont placés. C'est donc la situation qui va unifier, qui va nous permettre de tracer le trait horizontal entre les quatre piliers. Ce qui nous amène à définir deux termes qui sont très souvent confondus dans un grand nombre de définitions, y compris chez des chercheurs de haut niveau, où on emploie compétence à la place de capacité, capacité à la place de compétence, où on mélange un petit peu les deux, etc. Il faut essayer de se mettre les idées claires par rapport à ces notions, sinon, là encore, nos collègues enseignants, ils nous disent « mais allez vous rhabiller, quand vous arrêterez d'appeler compétence ce que l'IPR machin ou le formateur Trucmuche a appelé capacité, vous reviendrez me voir, moi je voudrais savoir de quoi je parle ». Et, mais ce n'est pas la faute ni du formateur, machin, ni de l'IPR, chose. C'est simplement que le discours auquel on est confronté, de la part de la recherche, de la part des institutions, n'est pas clair, n'est pas stabilisé. Donc, moi, je propose une stabilisation assez simple. Mais, bon, je n'ai pas la prétention d'organiser ce que des dizaines et des centaines de personnes n'arrivent pas bien à organiser. Mais enfin, bon, je la propose quand même. Comment on définit les capacités ? Les capacités, elles ont un objet spécifique. C'est-à-dire, ben, en l'occurrence, je sais saluer un interlocuteur qui me parle au téléphone. C'est une capacité, c'est un objet spécifique. Il est spécifique parce qu'il est circonscrit, simplement. Et il a une autre caractéristique, c'est qu'il est non contextualisé. C'est-à-dire, je sais saluer peut s'appliquer potentiellement à des milliards de contextes différents. Donc, on a ici les deux traits pertinents des capacités spécifiques, non contextualisées. Eh bien, il suffit de les inverser et on a, en gros, les compétences. Donc, qu'est-ce que c'est ? Ben, les compétences, puisque c'est le trait horizontal qui permet de relier les quatre piliers que le gamin est obligé de mobiliser pour accomplir sa tâche, eh bien, au lieu d'être spécifiques, elles sont coordonnées. D'accord ? Vous voyez que c'est le miroir. Hein ? Les compétences requièrent la mobilisation simultanée ou la synthèse, on peut appeler ça aussi la synthèse, dans une action, évidemment, de multiples ressources. Complexité, multidimensionnalité des ressources pour qu'on puisse parler de compétences. Si vous apprenez à conjuguer le verbe aimer en espagnol, je regrette, on n'est pas dans la complexité, on n'est pas dans la multidimensionnalité. À la rigueur, on est dans une micro-capacité. Voilà. Évidemment, puisque les capacités sont non contextualisées, les compétences, elles, sont très fortement contextualisées, puisqu'elles dépendent d'une situation. On ne peut pas faire plus contextualisé que ça. D'accord ? Donc, elles ne sont observables, les compétences, que dans l'accomplissement d'une tâche. Située, coordonnée, située, contextualisée. Je confondais les termes. Ça va, c'est clair ? La capacité, tous azimuts, pas de spécialisation en termes de situation. Par contre, la compétence, elle est contextualisée. Alors, vous allez me dire, il y a un vrai problème, et c'est mon dernier terme, et on va s'arrêter là. Il y a un vrai problème, c'est que si j'ai appris à développer une compétence dans une situation, qu'est-ce qui fait que je vais la... C'est-à-dire, tant qu'elle n'est pas transférable à d'autres situations, c'est pas une compétence. C'est pas une compétence. Donc, il faut que je travaille non pas sur une situation unique, mais sur des familles de situations. De manière à ce que, dans ces familles de situations, les élèves retrouvent les traits communs de la situation numéro 1, avec des variantes, évidemment. C'est-à-dire, je ne vais pas faire la tâche une seule fois, je vais l'adapter, modifier des paramètres contextuels, changer les personnages, changer, etc. De manière à ce que l'élève développe un contact avec ce schéma de compétences dans diverses configurations. Il va jouer un rôle d'un côté, il va être dans le rôle opposé ou symétrique la fois suivante, etc. Mais il va falloir... Hein? Et voilà, il faut varier les points de vue, forcément, sinon il ne transférera jamais rien. S'il a eu qu'une expérience, il ne transférera jamais rien. Donc, les compétences ont un caractère supplémentaire par rapport aux capacités, c'est qu'elles sont transférables ou elles ne sont pas. Et j'arrête ici, on regardera, mais peut-être simplement jeudi, vendredi, l'évaluation des compétences que je n'ai pas le temps de traiter. Mais vous aurez le diaporama.